Gloire à Dieu. En préparant le message de ce matin, je n'ai pas du tout regardé le calendrier pour finalement me rendre compte que c'était la fête des... Mais pour moi, je crois que la fête du Père, c'est tous les jours. N'est-ce pas ? Est-ce que tous les jours, nous rendons grâce à notre Dieu, notre Père, de la manière qu'il le faut ? Alors ce matin, j'aimerais vous encourager et nous encourager aussi à vivre, comprendre et vivre cette filiation qui nous a été accordée par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous allons méditer sur ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1 au verset 14. Jean, chapitre 14, verset 1 au verset 14. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment serions-nous le chemin ? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tous ceux que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Jésus s'approche de plus en plus du moment où il va être amené à sacrifier sa vie à la croix. Pendant ces 3 années, il n'a pas cessé d'enseigner, de former, de préparer ses disciples, leur partager, je dirais, le maximum de soins pour qu'ils puissent grandir et prendre la suite. Le temps passe vite. Je me dis, 3 ans, ça va vite. Même si au départ, on dit 3 ans, c'est long. Hein ? Mais quand on est à vivre des belles choses avec le Seigneur, et j'imagine que pour les disciples, ils voyaient le Seigneur œuvrer chaque jour des miracles sur miracles, des guérisons, des actions, des paroles puissantes. Les 3 années ont dû passer comme un souffle. Et là, malgré tout cela, le Seigneur tient un discours auprès de ses disciples qui pourrait nous étonner, puisqu'il est presque obligé encore de faire de l'évangélisation auprès de ses disciples. Regardez ce texte. Il dira que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Après 3 ans, c'est quand même étonnant que Jésus soit obligé de leur dire, croyez en Dieu, croyez en moi. Peut-être que les disciples auraient pu se vexer ce jour-là et dire, Seigneur, mais comment tu nous dis ça ? Si on n'avait pas cru, on ne t'aurait pas suivi. Si on n'avait pas compris qui tu es, ben on ne serait pas là. On aurait fait autre chose. Seigneur, comment tu peux finalement nous dire cela ? Mais la réalité, c'est que Jésus connaît le cœur de chacun. Et il commence par quelque chose de particulier. C'est qu'il commence par dire que votre cœur ne se trouble pas. Certainement que les propos de Jésus devaient peut-être par moments bien les troubler. Surtout quand Jésus parlait de donner sa vie. Ce n'était pas un discours qu'ils avaient envie d'entendre. Il y avait tellement d'autres choses. Hein? Seigneur, parle-nous d'autres choses. Mais là, finalement, il parle du trouble. Être troublé, ça veut dire être agité, être tout ému. Agité, troublé, c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur qui secoue, hein, il fait des allers-retours. Et il nous met en mauvaise Situation, mauvaise condition, c'est de l'inquiétude, ça enlève le repos, ça bouleverse, ça trouble, ça crée de la crainte, de l'anxiété, ça amène à la dépression, ça nous rend perplexes spirituellement, et je dirais même, ça nous amène au doute, être troublé, douter finalement de ce qui se passe. Les disciples allaient voir des choses terribles. En même temps, ils vont se retrouver dans le jardin de Gethsémané où tout simplement Jésus dira « c'est moi » et tout le monde tombe par terre. Autant ils verront Jésus se laisser prendre par les soldats, être amené, être passé à tabac. Il aurait pu dire encore une fois « c'est moi ». Il y a bien des fois où on aimerait dire « c'est moi » et voir tout tomber par terre. On aimerait parfois fuir finalement les situations, les circonstances, mais Jésus leur dit « ne vous troublez pas, que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » C'est difficile de croire qu'en ce qui se manifeste, ce qui est devant nos yeux, semble aller contre-courant par rapport à ce qu'on aimerait voir. Hein ? Quand on est dans les difficultés, on voudrait voir que Dieu aplanit les choses d'un coup, d'un seul. Le chemin est ouvert, il n'y a plus de soucis. Amen. J'ai même pas fini de lire ma prière et tout s'est réglé. Qui voudrait voir ça? Ah! Ça arrive, parfois. Mais parfois, ça n'arrive pas ainsi. Ça ne se fait pas aussi vite qu'on le voudrait. Parce qu'en tous les cas, Dieu ne sera jamais en retard. Ça ne se fait pas de la manière où nous avons envisagé les choses. Parce que nos projets ne sont pas ses projets. Les siens, ils sont bien précis, profonds, plus grands, plus précieux. Nous, on ne voit qu'une partie, mais Dieu voit pas seulement l'immédiat, voit aussi l'avenir. Et si quelque chose n'est pas bon pour ton avenir, Dieu le voit et Dieu ne l'accomplira pas parce qu'il ne veut pas ton mal. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin, dit la parole de Dieu. Mais oh combien de fois nous avons dit « oui, je suis sûr, c'est comme ça, amen, alléluia, Dieu m'a dit et j'y vais ». Après on se prend un mur et finalement, qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Dieu n'est pas une marionnette. Et on ne peut pas mettre sur la bouche de Dieu des propos qui ne viennent pas de lui. Il dirait même que la parole de Dieu nous dit de ne pas nommer le nom de l'Éternel en vain. Et pourtant, bien souvent, on met Dieu à toutes les sauces. Et si on prenait le temps d'écouter Dieu ? Jésus est en train de leur dire finalement, croyez en Dieu, croyez en moi. Et il va leur dire quelque chose qui aurait dû les encourager, mais nous aussi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Quelque part, Jésus est en train de leur dire, je ne vous cache rien. Et je voudrais dire à chacun de vous ce matin, le Seigneur ne vous cache rien. Lisez sa parole. Il vous dit la réalité, il vous dit ce qui était le passé, il vous parle du présent, mais il vous parle aussi de l'avenir. Clairement, il n'y a pas de... Ah, il ne va pas nous dire, ah, si tu acceptes Jésus, tu n'auras plus de problème. Quelqu'un un jour m'a dit, pasteur, depuis que je suis converti, j'ai l'impression que tout se complique. C'est pas que ça complique, c'est que tu commences ta marche et finalement tu commences à grimper. Quand tu commences à grimper, généralement il y a des petits cailloux et ça glisse sous les pieds et tu dois apprendre à bien placer tes pieds pour monter tes marches une après l'autre et pour arriver jusqu'au sommet. Et même en étant au sommet, encore attention, parce que ça peut vite glisser et dévaler la pente. Il est question pour nous, pas après pas, de dire, Seigneur, est-ce que c'est le pas que je dois faire ? Est-ce que c'est là que je dois poser mon pied ? Non pas parce que j'ai envie, mais parce que est-ce que c'est le projet de Dieu ? Alors, dans ce texte, nous voyons que Jésus leur dit, ne soyez pas troublés. Est-ce qu'il y a des choses qui nous troublent ? Est-ce que votre cœur est troublé ? Et si oui, par quoi ? Parce que Dieu ne sème pas le trouble dans les cœurs. En Dieu, nous avons une assurance. Et ce matin, le Seigneur encore nous dit, soyez assurés, Dieu est votre Père. Amen. Alors, je lisais ce texte, je me disais, c'est quand même étonnant, parce que de suite, on voit deux disciples identifier deux sources de troubles. Le premier qui identifie la première raison de trouble, c'est Thomas. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur Thomas. Hein. Le Thomas de la Bible, hein, s'il y a des Thomas ce matin, on ne se permet pas de dire que... Hein. Mais Thomas, lui, dans la Bible, c'est celui qui est toujours un peu à côté, borderline. Il est toujours particulier. Il a besoin, lui, si tu dis on va y aller, oui, donne-moi la carte. Hein? Seigneur, si je ne mets pas les doigts là où tu as, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je n'y crois pas. Et là, encore une fois, regardez, il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment serions-nous le chemin ? Il est où ton GPS, Thomas ? Elle est où ta foi, Thomas ? Peut-être ce matin, il y en a qui sont troublés parce qu'il dit, Seigneur, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas comment y aller, Seigneur. Je ne sais pas quelle est la marche à suivre après. Comment je dois faire? Je suis perdu, je suis égaré, je n'ai pas de repère. C'est terrible quand on sait qu'on doit aller quelque part et on ne sait pas comment y aller. Moi, je me rappelle que quand on est arrivé en Alsace, moi qui venais du fin fond de la Calabre, je me suis trouvé dans une région où les noms des villages me semblaient étranges. Ensisheim. Kingersheim, Absheim. Je dis, oulala, la première fois que je suis parti avec mon fils, on est parti, on devait aller acheter un petit meuble en Allemagne. Moi, je ne connaissais pas l'allemand du tout. Je me suis dit, Seigneur, je vais y arriver ou pas, je ne sais pas. Et je vois là, le panneau Auschwart. Premier panneau, deuxième panneau, troisième panneau. Je dis, punaise, elle est grande cette ville. Hein. Ah, moi, l'allemand, je n'ai jamais mâché d'allemand. Hein. Et j'avais mon fils derrière, il me parlait, je dis, fils, tais-toi 5 minutes, parce que là, on est perdu. Je dis, reste en silence, j'ai besoin de m'orienter. Et après, finalement, en repassant par la Suisse, on est rentré en France. Alors, je ne vous dis pas la visite des pays. Et mon fils, papa, on s'est retrouvés? Je dis, oui, voilà, tu peux parler maintenant, ça va. Parfois, on peut être égaré dans les choses simples de la vie. Il y a des choses simples qui peuvent nous arriver, finalement, nous sentir un peu perdus. Quelle décision prendre? Que faire? Comment faire? Seigneur, et finalement, Thomas, on peut comprendre sa question, parce que certainement, il y a des moments où nous aussi, nous avons dit, Seigneur, je ne connais pas le chemin, comment tu veux que j'y aille? Ah, Thomas prend une dimension différente, là. On l'aime un peu plus. Hein. C'est une réalité. Et le Seigneur lui donne une réponse qui était autant valable pour Thomas que pour nous ce matin. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Moi, je suis le chemin. Il est en train de dire, Thomas, suis-moi. Thomas, allez, suis-moi. Alors, je vous rassure, à force d'habiter en Alsace, j'ai dû apprendre un peu l'allemand. Hein. Un peu. Ja. Jawohl. Gut. C'était mes 3 paroles. Et avec ça, je pouvais tenir une discussion de 25 minutes. Je l'ai fait, je vous assure. Mes collègues étaient étonnés. Et 3 mots. Sauf que le Seigneur, lui, il n'a pas 3 mots. Peut-être ce matin, il en a un seul pour toi. Suis-moi. Hey, Seigneur, suis-moi. Mais Seigneur, si tu me disais où on va, suis-moi. Vous savez, le Seigneur peut être silencieux. Et même le silence parle. Parce que finalement, qu'est-ce qui est l'important ? De savoir où on va ou d'y aller ? Parce qu'on peut savoir où on va aller sans finalement franchir le premier pas. Mais si nous sommes en train de suivre le Seigneur, Jésus lui dit, je suis le chemin. Viens. Seigneur, mais je ne comprends pas tout. Tu ne peux pas aujourd'hui tout comprendre. Suis-moi, tranquillement. Viens, Thomas. On pourrait se dire, est-ce que le Seigneur ne s'est pas trompé un peu dans le choix de ses disciples ? Si vous regardez bien, ils étaient quand même particuliers, ces 12 disciples. On pourrait dire une équipe de 12 bras cassés. Non ? Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Vous avez Pierre, alors lui c'était le sanguin. Vous avez Jean, lui c'est amour. Hein ? Vous avez Thomas, alors on en a parlé. Les autres, certains, ils sont presque transparents, on les entend jamais. Il y en a d'autres, Seigneur, tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel. Alors, on a tous un caractère. Mais Jésus ne s'est pas trompé. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous regardez bien dans les 12 disciples, je dirais 11, allez, on se retrouve peut-être. Il y en a un qu'on pourrait se dire, mais le Seigneur, pourquoi a choisi Judas en sachant qu'il allait le trahir, en sachant qu'il volait ? Comment lui donner la bourse à celui qui vole ? Si on avait un doute sur notre trésorier, est-ce qu'on lui donnerait la bourse et le compte et le chéquier, la carte, disons, on te fait confiance ? Alors, je vous rassure, vous pouvez lui faire confiance. Mais on pourrait se dire, Jésus, comment est-il possible ? Tu connais les cœurs et pourtant. Mais parce que, croyez-moi, le Seigneur, s'il ne lui avait pas donné l'occasion de faire le choix, jamais il aurait pu faire le choix. Ça serait beaucoup plus simple pour nous que, en disant, Seigneur, mais si tu n'avais pas mis l'arbre de la vie et de la mort, hein, jamais Ève aurait touché à ce fruit interdit. Et aujourd'hui, mais on serait tous dans un jardin magnifique en train de faire un petit goûter avec des fruits de saison, hein, en train de caresser un petit chaton qui fait 250 kilos, non ? Parce qu'il n'y avait pas de problématique avec les lions et tout le reste. Mais la réalité, c'est que Dieu nous donne le choix. Et encore ce matin, Dieu te donne le choix et il t'invite à faire un choix. Alors, la première question de trouble, c'est où, Seigneur ? La deuxième raison de trouble, c'est finalement Philippe qui va dire « Montre-nous le Père ». C'est étonnant. C'est étonnant. Pourtant, Philippe exprime un cri du cœur car la présence du Père, d'un Père, est bénéfique pour le développement d'un enfant. Oh, combien c'est précieux pour un enfant d'avoir cette relation avec son Père. Pourquoi ? Parce qu'il va l'amener jour après jour, situation après situation, circonstance après situation, à se construire. Et finalement, Philippe, dans ce qu'il dit, c'est pas faux, il dit « Montre-nous le Père ». Et là, il y a quelque chose qui finalement, le Seigneur est obligé de lui répondre. Certes, le Père est symbole de protection, d'autorité, d'amour. Mais finalement, ses propos, c'est les propos d'un orphelin qui dit « Moi, j'ai besoin d'un Père ». Parfois, nos souffrances nous empêchent de voir que le Père, il est là. La preuve en est, c'est que Jésus va lui dire « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Les souffrances, les peines, les difficultés que nous avons vécues dans notre vie, parfois nous empêchent de voir la vérité, la réalité, de la reconnaître tout simplement. Et de voir en Jésus cette attitude du Père en disant « Mais Jésus, toi vraiment et le Père, vous êtes un. » Vendredi soir, notre frère nous a partagé ce texte « Qui dites-vous que je suis ?» Ce matin, vraiment, si vous devriez répondre à cette question de Jésus, qu'est-ce que vous diriez au Seigneur ? Tu es mon sauveur ? Très bien. Tu es celui qui m'a pardonné ? Très bien. Mais est-ce qu'on oserait lui dire « Tu es aussi mon Père ?» Parce que parfois, on voit Jésus en ami, mais on doit l'apprendre à le voir aussi comme un Père. Et la preuve en est, c'est qu'il va, vraiment prendre ce rôle de père en allant, lui, à la croix, mourir pour ses enfants. Finalement, la deuxième question, elle peut être examinée, elle peut être réfléchie. Mais la réalité, c'est que le cœur de Philippe avait encore besoin de réaliser qui est Jésus, de la même manière que Thomas avait besoin encore de réaliser qui était Jésus, le chemin. Est-ce que nous avons besoin encore de réaliser qui est Jésus ? Est-ce qu'on connaît Jésus ? Et qu'est-ce qu'on connaît de Jésus ? On peut connaître quelqu'un sur un livre d'histoire, mais souvent quand on le rencontre, si c'est le cas, on se dit « Ah, mais je ne t'avais pas imaginé comme ça. » Hein ? Déjà, ça arrive au téléphone, vous parlez avec quelqu'un, peut-être qu'il a une voix qui porte. Bonjour. Après, vous le voyez, il est tout petit, et vous dites « Oula !» Une voix d'orgue dont un des sept nains. Hein, ça fait tomber un mythe. Mais si je regarde bien, si j'entends avec mon cœur, pas avec mes yeux, mais avec mon cœur, les paroles de Jésus, si je regarde sa manière d'agir, si je considère ce qu'il a souffert à la croix, moi je suis sûr que le jour qui sera devant moi, je dirai, tu es mon sauveur, tu es mon père, non ? Thomas, il avait besoin de comment prendre le chemin. Philippe, il avait besoin qu'on lui présente le père. Et toi, de quoi as-tu besoin ce matin ? Qu'est-ce qui te trouble ? Qu'est-ce qui t'empêche finalement de passer à l'étape qui suit ? Parce qu'après, il est question de la demeure céleste. Mais le trouble pourrait finalement t'empêcher de trouver cette demeure, de rentrer dans cette demeure. Jésus était la représentation du Père céleste. Et parce que Dieu est un Père aimant, Jésus déclarera un peu plus loin, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Amen. Quel bonheur, combien c'est précieux de savoir que le Seigneur nous ne laisse pas orphelins. Il est là. Il y a parfois dans l'histoire de peut-être la vôtre ou de personnes qui nous ont qu'on a croisées, personnes qui malheureusement ils n'ont pas pu connaître leur père. Et la difficulté de se bâtir, de se construire de cette manière-là. Et peut-être que quelqu'un d'autre a joué véritablement le rôle de père tout en n'étant pas un père, je dirais, sur le plan physique. Et en même temps, moi je me dis, Jésus fait ce qu'il faut pour être un père, mais en même temps, il nous apprend à être nous aussi des pères et des mères spirituelles. Parce qu'avant de devenir des pères, nous avons tous été des fils et des filles. Je me trompe ou pas ? Oui ? Waouh ! Je vais l'écrire celle-ci. Ben oui ! Avant de devenir père, je dois apprendre à devenir fils. Je dois apprendre, je dois passer par cet apprentissage où je comprends que celui qui est là et qui est mon père, lui, il a l'autorité, moi, je lui dois l'obéissance. Je lui dois le respect parce que généralement, un enfant, il essaye très vite de tester et de voir où il peut repousser les limites. Et quand il arrive à l'adolescence, alors c'est plus les limites, il y va au bulldozer. Et on est obligé de comme au rugby, papa et maman, ils se mettent en position et ils font barrage. Et on est obligé de positionner, de dire non, là, stop. Mais combien de fois Dieu a dû nous dire stop ? Et c'est seulement après qu'on a compris pourquoi Dieu nous a dit stop. Et jouer le rôle de père, c'est quand aussi il faut dire stop, de le dire. Parce que aimer quelqu'un, c'est aussi le préserver. Si lui ne voit pas le danger, c'est à nous de le voir, non ? Moi, je me rappelle d'une fois, je promenais avec mon fils et je lui dis « cours pas, cours pas, cours pas ». Il courait et d'un coup, j'ai dû le prendre par le bas du pantalon et le soulever, le tirer en arrière parce qu'il courait tellement vite, il n'avait pas vu la voiture venir dans l'autre sens. Eh bien oui ! Elle dit, mais papa, il était suspendu. J'ai dit, fils, je t'ai dit de ne pas courir, regarde la voiture. Je lui ai dit, maintenant, tu me donnes la main et tu ne lâches pas. 5 minutes après, parce qu'on est comme ça. C'est la nature humaine qui nous a fait comme ça. Combien de fois vous avez pris des engagements avec le Seigneur ? Là, pendant le culte, vous sortez 5 minutes plus tard, vous dites, mince, j'ai déjà oublié, je suis reparti dans mon truc. Et on est obligé de revenir et dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que c'est vrai, ce matin, j'ai pris cet engagement, mais où ? J'ai un problème de mémoire, je suis un peu poisson rouge sur les bords. Je fais le tour du bocal et j'ai déjà oublié. Mais la parole de Dieu nous invite, frères et sœurs, chacun de nous, à comprendre qu'il nous est important pour nous de saisir la vérité, parce que si on ne la comprend pas, on ne verra jamais ni Dieu, ni Jésus comme être celui qui est notre Père. Et si je ne comprends pas que Dieu est mon Père, j'ai tendance à prendre n'importe qui pour un Père. Et si Dieu n'est pas mon Père, qui joue ce rôle ? Parce qu'il n'y a pas de vide. Si Dieu ne joue pas le rôle de Père, si moi je n'ai pas choisi Dieu comme mon Père, qui est en train de jouer ce rôle ? Peut-être celui à qui on voudrait vraiment, qu'on voudrait fuir, qu'on ne voudrait pas comme Père. Celui qui, en effet, n'a jamais fait la promesse de nous aimer, jamais eu la simple volonté de nous faire du bien, mais qui a tout fait pour nous détruire. Un père qui détruit la vie de son enfant, c'est quelque chose d'impensable. C'est quelque chose qui nous révolte, non ? On dirait une chose pareille, il faudrait lui retirer la paternité. Sauf que Dieu te dit, c'est toi qui as le droit de lui retirer cette paternité. C'est toi qui dois faire le choix de dire « Dieu est mon Père ». Apprendre à le connaître, apprendre à saisir et à vivre cette appartenance avec une identité de fils et de fille. Non pas de quelqu'un qui était adopté, mais quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu. Je ne t'appelle pas monsieur, je t'appelle mon Père. Non ? Un jour, quelqu'un avec qui je discutais, j'ai dû le dire aussi ici beaucoup de fois, mais encore je continue de le dire, on me vous voyait. Et j'ai dit, est-ce que tu vous vois Dieu ? Non. J'ai dit, tu ne vous vois pas Dieu, tu me vous vois moi ? Oui, mais lui, c'est mon père. J'ai dit, c'est très bien. J'ai dit, moi, je ne peux être que ton frère. Non ? Alors, à moins que vous voyez vos frères et sœurs, alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Non ? Mais tout en tutoyant Dieu, je me dois d'un respect, hein, d'un vrai respect. Attention à nos propos, attention à nos mots. Ne parlons pas à Dieu n'importe comment. Moi, je me rappelle de combien de fois mon père m'a dit « Attention, Emmanuel, je suis ton père. » Parce qu'avant d'être un père, j'ai été un enfant. Et un jour, mon père m'a dit quelque chose. Et je le dis à tous les jeunes qui sont là. Souvenez-vous, la vie, c'est une roue. Ça tourne. Ce que vous faites aujourd'hui, vous le retrouverez demain, servi. C'est vos enfants. Il y a une histoire qui marque bien les consciences. C'est un homme qui avait son papa à la maison. Et son papa était âgé, et dans la maison, il lui avait fait une petite place, il lui avait mis un lit, il avait une petite table, et il avait un petit saladier dans lequel il lui mettait la nourriture. Et ce père se nourrissait dans ce plat, qui était rarement lavé. On lui remettait la nourriture, et le jour où le papa est décédé, ce fils a pris ce bol et l'a jeté. Et ils ont enlevé le lit. Et le plus petit de ses enfants est allé rechercher ce bol. Et le père lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et le fils lui dit, papa, je le mets de côté pour toi. Saisir notre filiation, ça veut aussi dire que nous n'avons rien à faire pour la mériter. Ni prouver aux autres notre valeur, car notre vraie valeur est dans la filiation avec le Père céleste. Je ne peux pas acheter ma filiation en Dieu. Certes, j'ai un choix à faire, mais ce choix est encore une fois une grâce qui m'est accordée. Ce n'est pas parce que j'ai choisi que finalement j'ai fait quelque chose Non, j'ai simplement accepté cette grâce qui m'est accordée par Dieu. Et je dis, Seigneur, tu es mon Père. Je ne pourrai jamais acheter cette filiation, mais je dois apprendre à la vivre, véritablement. C'est pour cela que Philippe dira, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je me suis étonné de cette phrase. Finalement, Philippe, il est en train de dire, Seigneur, tout ce qu'on a besoin, c'est de connaître le Père. Non, c'est pas faux. C'est pas faux, je suis allé chercher un peu plus loin, en effet, quelle est la racine de ce mot « suffit » dans ce texte signifie « posséder une force inépuisable, défendre, veiller ». En d'autres termes, il dit « nous sommes enfants, et si nous sommes enfants, cela nous donne une force inépuisable, et rien de ce que nous pouvons faire ou pas faire anéantira cette vérité ». Ça suffit parce qu'une fois que je sais que Dieu est mon Père, le reste ne peut plus me toucher. Est-ce que nous vivons cette assurance du fait que nous sommes enfants de Dieu et que cette réalité, nous devons la vivre tous les jours, non pas comme quelqu'un qui vient quémander à la part de Dieu quelque chose. Je disais ce matin à l'équipe de louanges, parfois on a le sentiment qu'on vient apporter au Seigneur le besoin, Seigneur bénis-moi. Alors je ne suis pas contre le fait qu'on dit Seigneur bénis-moi, ce n'est pas le problème. Mais je crois aussi dans le fait qu'en ayant reçu Jésus-Christ, la bénédiction est en Jésus-Christ et en lui, je ne manquerai de rien. J'ai pas besoin de la réclamer parce que toutes les fois que j'ai demandé au Seigneur son secours a été au-delà de mes attentes. La bénédiction de Dieu, c'est que Dieu fera toujours plus qu'on peut l'imaginer et j'ai pas besoin de la réclamer. Elle m'est accordée parce qu'il est mon Père. Et finalement, mon attention n'est pas être celui qui est comme un enfant gâté, vous savez, dans les supermarchés. Je ne sais pas si vous aimez ça. Quand vous allez dans un supermarché, vous avez un enfant qui crie. Des caprices. Je veux les bonbons ! Ah, moi, des fois, je dis, Seigneur, fais qu'ils partent vite. Ouvre une caisse qui paye. Parce qu'à un moment, je ne sais pas, quand on est jeune, on arrive, mais quand on arrive à un âge mûr, pas vieux, hein, mais mûr, on se dit, on veut un certain calme. Moi, j'essaie d'aller faire mes courses quand il n'y a pas trop de monde. Pour que ça soit calme, pas de musique, silence, tu as le droit de parler. Voilà. Est-ce que nous, on agit comme ça avec Dieu? On est là en train de se plaindre, taper des pieds parce qu'on n'a pas eu ceci, on n'a pas eu cela? Ou est-ce qu'on considère que Dieu sait ce dont nous avons vraiment besoin? Et si en acceptant que lui, autant que Père, il nous le donne, et nous, c'est là que je découvre le regard du Père. Vous savez ce qui est le plus dur dans la vie d'un enfant? C'est d'avoir le sentiment que son Père ne l'aime pas et qu'il ne le regarde pas. Comme ce qui peut être la plus grande des forces pour un enfant, c'est d'avoir toujours senti son père à côté. Même quand il faisait des bêtises. Et j'en ai fait, hein. Mais de sentir le regard du père. Ce matin, mon frère, ma sœur, je voudrais t'encourager à apprendre à sentir le regard du père sur toi. À ne pas te laisser te sentir comme un délaissé, un abandonné, parce que finalement, Satan, c'est ce qu'il voudrait faire croire. Mais si tu regardes bien, si tu fais bien attention, tu sentiras le regard du Père qui n'est pas un regard oppressant, mais qui est un regard bienveillant. Ce n'est pas un regard qui est là pour te terroriser, mais pour t'apaiser. Ce n'est pas un regard qui est là pour te juger, mais pour te relever. Alors ce matin, approche-toi du Seigneur avec cette confiance de dire, Seigneur, je sais que tu es mon Père et que tu m'aideras, tu me fortifieras, tu changeras ma vie, Seigneur. Il y a quelque chose qui doit être important pour nous, c'est qu'il y a quelque chose qui nous incombe. Bien évidemment, Jésus a fait tout pour nous, tout est accompli à la croix, mais il y a quelque chose qui nous incombe, c'est croire. Au verset 10, il dira « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez en moi. » Alors ce matin, le Seigneur te dit « Tu veux sortir de ce trouble ? Crois en lui. » Amen. Tu veux sortir de tes peurs, de ne pas savoir où tu vas, de comment tu vas, crois en lui. Et en plus, ne t'inquiète pas, parce que celui qui croit en lui fera des choses encore plus grandes. Nous voulons faire de grandes choses avec le Seigneur, mais il faut apprendre à croire au Seigneur. Ce que Jésus a fait, il l'a fait, et il nous dit, vous ferez des choses encore plus grandes. Moi déjà, si je pouvais faire ce qu'il a fait, ça serait pas mal. Non ? Qui voudrait faire ce que Jésus a fait ? Eh ben non. Il vous dit que vous pouvez faire plus. C'est pas un père, ça ? Qui veut que ses enfants fassent plus ? Qui est plus, qui vivent plus les choses, c'est la volonté de Dieu. Jean chapitre 17, verset 3 à 8 dira ceci, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Le Seigneur veut pouvoir rendre ce même témoignage de chacun de nous. Là, il est en train de parler de ce que j'ai tout à l'heure appelé des bras cassés. J'en fais partie aussi. Et le Seigneur nous dit, voilà ce que tu dois comprendre. Crois. Crois simplement. Crois avec tout ton cœur. Et tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu, pas seulement il veut qu'on croie, parce qu'on pourrait se dire croire, Seigneur, ok, c'est bien. Mais ça répond à la question du Père, finalement, ok, l'identité du Père, j'ai compris. Mais Seigneur, où ? La fameuse question de Thomas. Vous avez vu la réponse de Jésus, verset 2, il dira, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place, donc... Je m'en vais et vous préparez une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. La volonté est la chose la plus précieuse pour un père, c'est d'avoir ses enfants autour, non ? Et vous ne croyez pas que le Seigneur veut nous avoir avec lui ? Le Seigneur veut t'avoir. Oui, mais je suis un enfant terrible. Même le terrible. Même celui qui bouge dans tous les sens. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Non ? C'est vrai ou pas ? On en a qui sont très calmes, c'est presque inquiétant. Elisabeth, elle a été assistante maternelle. Un jour, on lui a confié une petite. Elle arrivait, se plaçait sur un carreau de carrelage, elle ne bougeait plus. Elle m'inquiétait. Alors j'ai ouvert le coffre à jouets, j'ai mis les jouets les uns après les autres et j'ai dit à Elisabeth, je vais la... déprogrammé. Il m'a dit, tu vas faire quoi ? Je l'ai soulevé, je l'ai mis devant les jouets, je lui ai dit, joue. Et ça s'est débloqué, je vous assure. Parfois, nous, on s'est fixé dans quelque chose, on s'est enfermé dans quelque chose, mais le Seigneur voudrait nous faire comprendre qu'il a prévu autre chose pour nous. Et on a besoin d'être déprogrammé. C'est-à-dire, Seigneur, sors-moi de la vision que j'ai de moi-même. Parce que notre vision personnelle, elle peut être terrible à cause de toutes nos erreurs. Et les erreurs, elles sont là. Mais le Seigneur est prêt aussi à les effacer. Il est prêt aussi à les pardonner. Et il ne reviendra pas sur le discours. Hein. Il ne sort pas les dossiers à chaque fois. Ah, je te l'avais dit, tu es... Il prend les péchés, il les jette au fond de la mer, là où personne ne peut les reprendre. Et il nous accorde une paix et un crédit incroyables. Parce qu'il désire que nous puissions faire des choses pour lui. Jésus dira dans la prière sacerdotale, et je termine avec ce texte de Jean 17, versets 24 à 26. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Pour connaître l'amour, il faut connaître le Père. Pour connaître le Père, il faut accepter l'amour. Pas l'amour de n'importe qui, l'amour de Dieu. Cet amour qui change notre regard sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Qui nous apprend à les regarder non pas avec nos yeux, nos jugements personnels, mais avec les yeux de Dieu. Qui voit et agit autrement. Alors la grande question, sommes-nous, comme la parole de Dieu nous le dit, ces enfants que Dieu a pris pour lui? Êtes-vous enfant de Dieu? Et si ce n'est pas le cas, qu'attendez-vous? Pourquoi rester au dehors de ce moment-là? Un jour, pendant une visite à une personne qui était en pleine souffrance, en pleine dépression, je suis arrivé dans cette maison et cette femme est... Ça faisait 15 jours qu'il ne s'était pas lavé, qu'il ne s'était pas changé. Elle n'avait pas mangé. Elle était dans un état triste. Et dans un coin de la pièce, il y avait un tout petit, un gamin, qui lui s'était nourri de tout ce qu'il avait trouvé dans les placards, qui était habillé avec le même pyjama depuis 15 jours, et qui répétait ce que sa mère disait, « Je veux mourir ». Et ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, quoi faire? Et bien évidemment, on a prié avec la maman. Et après, j'ai invité ce petit. Je dis, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Non! Je veux mourir! C'est horrible d'entendre ça à l'enfant. C'est horrible, c'est impensable. Et je lui dis, écoute, je vais quand même prier pour toi. Même si tu ne veux pas que... Mais je prie pour toi. Et on a prié, on est reparti en disant, Seigneur, fais grâce. Et on est revenu 2 jours plus tard. La maman s'était lavée, s'était changée. Le petit était lavé, changé. Il y avait quelque chose qui se passait. La maman commençait à avoir un regard tout doucement libéré. Et finalement, le petit était assis sur son canapé. Et après qu'on ait discuté avec la maman et prié avec elle, je lui répète, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Alors il s'approche, il me fait, je peux te demander une chose? Je lui dis, dis-moi, est-ce que je peux t'appeler tonton? Ah, je lui dis, si tu m'appelles tonton, moi je suis l'homme le plus fier au monde. Je lui dis, bien évidemment. Et j'ai pu prier pour cet enfant. Et quelques jours plus tard, la maman, elle est venue à l'église avec l'enfant. Alors l'enfant, dès qu'il rentrait, il n'y avait plus personne. Il courait sur l'estrade, même si le culte était commencé. Tonton ! Quand je lis la Bible, et je vois que cet homme qui ne pouvait pas marcher est rentré dans le temple en courant, en louant. C'est là qu'on comprend. Et ce matin, je voudrais te dire, ne retiens pas ta joie d'être enfant de Dieu, mais loue le Seigneur. Ne retiens pas ce que Dieu a donné, mais cours dans les bras du Seigneur. Ce n'est pas important ce que les autres vont penser ou croire. Toi, rapproche-toi de Dieu. Ne reste pas dehors, ne reste pas en disant oui, non, mais ça ne se fait pas. Voici un jour, le jour, qu'on sera dans le ciel. Si vous en voyez un courir, c'est moi. J'ai été sportif non pratiquant ici-bas, mais là-bas, là, je vais courir parce que j'ai envie de me mettre tout près du Seigneur à ses pieds. Vous n'avez qu'à courir avec moi. Et il n'y aura pas, non, mais attends, le protocole. On s'en fout du protocole. Moi, je veux être près du Seigneur. J'ai besoin de mon Dieu. J'ai besoin de mon Père. J'ai besoin de mon Seigneur. Et si tu as besoin, je voudrais t'inviter ce matin à fermer les yeux. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Ferme tes yeux et approche-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, peut-être jusque-là, je n'avais pas compris comment, mais maintenant, Seigneur, je sais que c'est toi. Je veux te suivre, Jésus. Parce que nul ne vient au Père que par toi, dit la parole. Donc, si j'ai besoin, si je désire arriver au Père, je dois te suivre, toi, Jésus. De la même manière, Seigneur, apprends-moi à voir le Père. Apprends-moi à l'aimer. Apprends-moi à lui obéir. Apprends-moi, Seigneur, à le suivre. Apprends-moi à être un enfant. Non pas un enfant terrible, mais cet enfant sage qui court, qui désire se blottir dans les bras de son Père. Seigneur, toi tu connais, Seigneur, cet amour. Notre Dieu, toi tu connais l'amour que tu nous portes. Tu connais, Seigneur, les souffrances qui peuvent être les nôtres, Seigneur, aussi de voir nos enfants peut-être encore pas à toi. Seigneur, nous te les confions. Mais Seigneur, nous voulons nous confier nous-mêmes à toi. Et ce matin, Seigneur, si quelqu'un avait besoin de te rencontrer, je te prie, frappe à la porte de son cœur. Seigneur, révèle-toi comme tu l'as fait pour chacun, Seigneur. Fais-lui sentir ta présence, ton amour, ta miséricorde, ta bonté. Seigneur, viens, Seigneur, guérir les blessures. Viens guérir les plaies, Seigneur. Viens, Seigneur, redonner la paix qui a été perdue à un moment ou peut-être depuis toujours, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, dans ta miséricorde et dans ta bonté. Seigneur, merci de nous accueillir dans ta présence. Merci d'avoir préparé pour nous un lieu dans le ciel. Seigneur, nous voulons être avec toi pour l'éternité, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Nous te louons et nous te bénissons, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.